On va reprendre la suite de l'Assemblée générale après avoir et s'être exprimé sur le rapport moral.
C'est vraiment pas fait pour les t-shirts en fait, cette saloperie.
Bon, je vais le tenir.
Enfin, si tu veux, je te prête ce micro-là et comme tu veux. François va nous exposer l'activité financière 2010 de l'association. Je lui laisse la parole.
Bien, bonjour. Alors, ouais, c'est un moment difficile à passer, mais on va essayer de rendre ça pas trop douloureux. Globalement, je pense pas que je vais... Enfin, je sais pas combien de temps j'ai.
Je pense que... Une demi-heure, je dirais.
Une demi-heure, d'accord.
Enfin, je pense que c'est 20 minutes de... Alors, juste pour pouvoir suivre ce que va nous exprimer François... il y a le bilan financier et les comptes de résultats, ainsi que les commentaires du trésorier. Donc ça permettra de rendre un petit peu plus concret les différents chiffres que tu vas nous exposer.
Ouais. Donc globalement, voilà, le bilan financier, il se décline. Enfin, il y a deux parties. Il y a l'aspect bilan proprement dit, et il y a l'aspect compte de résultats, donc qui concerne, on va dire, la gestion financière. Et j'ai fait un commentaire écrit qui était présenté lors du vote et que vous pourrez prendre connaissance quand vous voulez. Je vais globalement balayer le commentaire quoi, en insistant sur les points qui me semblent importants. Vous pouvez de toute façon, enfin il y aura un moment de questions et puis vous avez aussi le commentaire pour vous référer plus précisément. Oui. Vous pourrez vous référer aux commentaires pour les précisions quoi. Voilà. Donc j'ai dit le bilan et le compte, ça fait deux parties. Donc on va commencer par le plus court, on va dire, c'est le bilan financier 2010 de l'association, qui a pour objectif de faire état de la quantité d'argent, enfin ou de capitaux qu'on a quoi. C'est pas forcément de l'argent liquide. On a commencé l'année on va dire les 58 400. Je ne vais pas citer les chiffres précisément, sinon c'est imbuvable. On a commencé l'année avec environ 58 000 euros de fonds associatifs qui sont dans le compte 10, fonds associatifs et réserves. Et on a un résultat net pour l'année 2010 qui est à moins 31 500 euros à peu près, quoi. Donc on expliquera à peu près une partie du résultat net qui est pas dramatique, hein, faut pas non plus croire que c'est très grave.
Il avait été budgété.
Ouais, premièrement il a été budgété, deuxièmement le budget négatif n'a pas été réalisé pour différentes raisons et notre budget, la réalité de nos dépenses a été beaucoup moins dépensière que budgétée, mais par contre il y avait quelques changements de technique comptable qui ont mené à un résultat net fortement négatif, mais ce sont des changements dans les méthodes d'écriture, tout n'a pas d'influence sur la trésorerie et ça ne veut pas dire qu'on a déboursé tant d'argent en fait. Donc voilà. L'association commence l'année donc avec 27 000 euros pile de capitaux propres. Alors le chiffre est rond, c'est pas de la triche, c'est vraiment le hasard. Il y avait une chance sur 1000, je suis tombé dessus. En gros quoi. Et donc on a récupéré. Donc ça c'est le capitaux propres. Donc c'est en gros au 1er janvier la quantité d'argent que l'association dispose de part et d'autre. Et on a 10 000 euros qui sont des fonds dédiés qui sont le résultat en fait d'une subvention versée par le Crédit Coopératif dans le cadre d'une convention sur un projet de libre association dont on a parlé tout à l'heure. Voilà pour ça. Et au 1er janvier, on a à peu près... presque, enfin 19 000 euros donc de comptes de tiers, donc qui sont majoritairement des dettes auprès de fournisseurs. Donc c'est grosso modo les charges sociales et la taxe sur les salaires de nos permanents. On a les charges sociales, on les paye tous les 3 mois, donc on a une échéance qui tombe début janvier, elle est payée. Mais au moment où on arrête les comptes au 31 décembre, elle est en dette. Donc c'est pour ça qu'elle apparaît dans ce compte-là. Au 31 décembre, nous avons 56 000 euros en caisse, en banque, et un petit peu d'argent en caisse, pas grand-chose. Donc voilà pour l'essentiel du bilan financier qui fait donc état de la quantité d'argent qu'on a en poche. En gros, on a 27 000 euros de capitaux propres qui sont à nous et 10 000 euros qu'on a en poche mais qui sont dédiés à un projet. Voilà. Ensuite, il y a l'aspect compte de résultat qui là traite la partie gestion de l'association. Puisque toutes nos dépenses ou nos rentrées d'argent, donc les charges ou les produits, on les catégorise dans différents comptes pour montrer un peu d'où elles viennent. Alors quand on regarde un peu la... faut que je trouve mon analyse parce qu'il y a dedans les... Voilà. Quand on regarde un peu...
C'est-à-dire qu'il y a des trucs pertinents dans ton analyse ?
Ouais, c'est ça. En fait, comme je n'ai pas préparé, comme j'ai eu une nuit très courte, je me réfère à ce que j'ai écrit le jour où j'étais à peu près en forme. Et donc, il y a une légère accroissement des charges de l'association. Donc, pour plusieurs raisons. La première, c'était on avait environ 15 000 euros d'accroissement de charges par rapport à l'année passée. La première des raisons, c'était qu'on a déployé une prestation technique exceptionnelle de migration du site web. On a un site web depuis 2008 qui est passé sous Drupal. On a du mal à mobiliser des compétences techniques pour maintenir ce site web. Et il a fallu changer de version. On n'a pas trouvé autre chose que de payer 7 000 euros à un développeur pour faire ce travail. Donc si jamais parmi vous il y a des compétences en maintenance Drupal, elles sont vivement appréciées si vous ne voulez pas qu'on recommence ce genre de dépenses à l'avenir. Ah d'accord. Ah. Donc on m'a loupé depuis tout à l'heure ? Ok. Tant mieux. Donc il y a une légère augmentation des salaires et des charges associées, donc qui comptent pour 3 000 euros. Et il y a aussi le renouvellement du poste de chargé de mission, puisque donc Alix Cazenave nous a quitté pour d'autres aventures, enfin a quitté son poste pour d'autres aventures, et on a vu arriver Jeanne Tadeuse. Et donc c'est jamais gratuit tout ça, puisque il faut former la personne, il faut un recouvrement de, faut que les personnes travaillent ensemble pour recouvrir, enfin pour transmettre l'information. Et par rapport à l'existence d'un unique poste, ça nous coûte un petit peu plus cher toutes ces affaires, ce qui est normal. Donc comme vous le voyez un peu dans le compte de résultats sur la partie charges, l'essentiel des charges de l'association, en fait, c'est des charges de personnel. Nous, on a en gros 200 000 euros de budget, un peu moins, et on a 145 000 euros de charges de personnel, du salaire direct et du salaire indirect, donc les cotisations, URSSAF, ACEDIC, etc. Ça compte pour ça. On a aussi pas mal de frais de vie associative normale, donc on a des locaux, il faut les payer, ça coûte assez cher. On est assuré, il faut payer, du téléphone, etc. quoi. On a un budget donc réception qui sert par exemple lorsque on paye de la nourriture pour l'Assemblée Générale ou qu'on fait un pot de départ pour un permanent qui nous quitte, ou alors qu'on fait un pot d'arrivée pour remercier une entreprise qui nous héberge gratuitement. Tout ça passe en budget réception. Je détaillerai un peu parce que ça a suscité pas mal de questions sur le vote en ligne. Voilà là-dessus. Et on a une petite changement de technique comptable qui occasionne en fait un exercice fortement négatif pour l'année 2010, qui est que en fait, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'en début d'année on commence avec des charges en dette auprès des fournisseurs, et dans le passé de l'association ça n'a jamais été compté. Pourquoi ça n'a jamais été compté? C'est parce que au début on commence avec un permanent, on a un petit peu de dette, et puis on se dit c'est pas très grave, c'est chiant à gérer la compta, vaut mieux faire des CP contracta et ne pas s'en occuper. Puis l'association grossit, on finit par être à 3 permanents, et on se rend compte que en fait début janvier, c'est plus 2000 euros qu'on a de dette d'un fournisseur, mais en gros 18 000. Et donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix en fait de réintégrer ça, de le faire apparaître au bilan pour que ce soit un peu plus réaliste, parce que si on fait pas ça en fait, ça veut dire que je vous présente un bilan, donc la feuille qui était avant, avec un capital propre qui est surévalué.
Donc, grosso modo,
avant, on surévaluait un petit peu.
On avait une comptabilité de caisse, on regardait ce qu'on avait sur notre compte bancaire et ce qu'on avait sur la caisse avec l'argent. Physique, Là, on prend en compte les dépenses liées aux dettes sociales. On devance, il y a un terme un peu plus comptable,
on les
intégrer dans notre bilan.
On les provisionne.
On les provisionne, merci.
Donc voilà pour ça. Et en fait, c'est normal, hein, c'est un changement qui intervient du fait aussi du grossissement de l'asso, du fait qu'on a envie de mettre ça à carré pour essayer de présenter des infos les plus sincères possibles en bilan. Comme je le dis, ça n'a pas d'incidence sur la trésorerie, parce qu'en réalité, ça ne veut pas dire qu'avant on gérait mal l'asso, parce qu'on en tenait compte, juste on présentait des chiffres qui étaient plus discutables, quoi. Voilà. Ouais, je suis désolé, je ne suis vraiment pas assidu pour parler dans le micro. En plus, je n'aime pas m'entendre, donc ça fait que, intuitivement, voilà, j'ai tendance à le reculer. Je n'ai pas tellement plus de choses à dire, donc on va pouvoir parler un peu de questions. Donc moi j'ai relevé des questions sur internet, je vais peut-être aborder ça. Donc il y a différentes choses. Concernant le résultat de l'exercice 2010, je viens d'expliquer, c'est surtout en fait une technique d'écriture, hein, une technique comptable qui n'a pas d'incidence sérieuse en termes de sortie de trésorerie. Enfin, on a un budget légèrement déficitaire, mais l'exercice, si on ne tient pas compte de ce changement-là, on est à moins 10 000 euros, alors qu'on avait budgété 42 000 euros. Ah oui, j'ai pas expliqué pourquoi on n'a pas tenu le budget prévisionnel. C'est parce que, peut-être que vous en avez entendu parler à la radio, il y a la crise. Et la crise, elle nous a fait un petit peu peur au premier semestre, qui est qu'on a eu beaucoup d'entreprises qui manquaient de liquidités et qui ne voulaient pas, enfin, qui pouvaient pas forcément payer leurs cotisations. Donc on a eu, au final, on a réussi à récupérer ces cotisations et c'est plutôt bon. Mais par contre, au début de l'année, on avait quelques interrogations sur la réalité de l'argent qui allait rentrer d'ici la fin de l'année. Et donc du coup, on a repoussé pas mal de projets. Et on a aussi réduit des dépenses liées à des projets qu'on avait budgétés. Donc typiquement, j'ai parlé de prestations sur le site web tout à l'heure. On avait budgété 15 000 euros, on en a réalisé 7 000. Hein, on a réduit un peu la voilure. Et on a fait pas mal de choses comme ça, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un budget déficitaire de moins 40 000 euros environ, on a réalisé en fait un budget déficitaire de 10 000 euros, moyennant le changement dont je viens de parler. Il y a des questions qui se sont posées concernant la pérennité des postes de permanents, parce que les gens, ils ont bien vu en analysant les comptes qu'il y avait moins de rentrée d'argent, que ça s'érodait un peu. Donc c'est les aspects cotisation. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans le détail du recouvrement de cotisation, parce que c'est plus, on va dire, un problème de secrétariat, de vie associative générale. Je regarde que l'aspect trésorerie. Et la pérennité des postes de permanents est plutôt bonne. Pour 2010, on prévoit à peu près alors les charges de l'association, donc si on compte les salaires, si on compte les charges de personnel en général, plus les charges de la vie courante de l'association, c'est-à-dire les consommables, le loyer, etc., on atteint un total d'environ 169 000 euros. Et en réalité, nos cotisations membres, même avec une estimation relativement pessimiste, vont nous ramener en 2011 minimum 174 000 euros. Ça, c'est si on fait une projection un peu dans la continuité de ce qui s'est passé en 2010. Donc, a priori, on n'a pas de problème de pérennité. Par contre, si on veut se donner un peu de latitude pour mettre de l'argent dans des projets plus ponctuels, il faudra peut-être recourir à des actions. Concernant le budget 2011, il y a des gens qui se sont étonnés qu'on présente pas un budget prévisionnel pour la mise au vote. Alors il y aura un point de budget prévisionnel tout à l'heure, on va en parler. Mais la raison essentielle pour laquelle on ne présente pas de budget prévisionnel, c'est que en réalité la mise au vote elle est faite la troisième semaine de janvier, en gros vers le 20 janvier. Il faut que les bilans soient réalisés avant que le CA les ait validés. Il faut que j'explique à mon CA, moi, la réalité, les différents... tout le commentaire que vous avez vu, il faut que j'en discute avec mon CA d'abord. Ça prend du temps, on est tous bénévoles. Ça veut dire que moi, les 15 premiers jours de l'année, je m'arrache les cheveux, concrètement, pour sortir le bilan. Et ça prend du temps, hein, ça prend vraiment du temps. Donc je ne peux pas ajouter à ça un budget prévisionnel qui aussi prend du temps, aussi demande des discussions. Parce qu'un budget prévisionnel, ce n'est pas seulement de la technique comptable comme pour un bilan, mais ça demande aussi de prendre des orientations stratégiques. Et donc c'est ce qu'on discutera tout à l'heure. On a prévu un scénario pour 2011 principalement. On vous le présentera. Voilà pour ça. Alors, concernant... il y a des questions de technique comptable. Donc, il y a un vieux marronnier en comptabilité qui est le problème de l'immobilisation du matériel informatique. Parce que en technique comptable classique, enfin, pour les gens qui font de la compta sérieusement, pas moi, on tient compte, en fait, de l'immobilisation des matériels et de la dépréciation des matériels au cours de leur durée de vie. De façon à ce que ça apparaisse au bilan, parce que c'est normal, hein. On ne peut pas dire que on dispose d'une machine. Si on achète une machine 15 000 euros et que l'année d'après elle en vaut 5 000, on ne peut pas dire qu'on a 15 000 euros sous forme d'actifs, quoi. Et donc il faut que ça apparaisse au bilan. Nous on ne pratique pas ça pour deux raisons. C'est, premièrement, on n'a pas d'outils comptables qui nous permettent de le faire automatiquement. Donc c'est du travail supplémentaire qu'on s'ajoute. Deuxièmement, on fait très très peu d'achats de matériel. On fait essentiellement du consommable et du salaire à l'April. Donc sur 200 000 euros de budget, je vais avoir quelque chose comme maximum 2000 ou 1500 euros d'achat matériel qui passe très très peu dans le budget. Donc je ne vais pas m'amuser à m'ajouter une charge inutile de travail si ça n'a pas d'intérêt comptable sérieux, quoi. Bon, je dis ça, ceci étant, comme on a émis le souhait de migrer notre infrastructure comptable, il est fort probable que 2010 soit la dernière année où on ne pratique pas cette technique. Donc à l'avenir, ça devrait venir assez naturellement, vu qu'on aura des outils pour le faire à notre place. Il y a des gens qui se sont étonnés du manque de transparence des comptes, parce qu'ils considèrent que ce que je présente pour la mise au vote, donc le compte de résultat, le bilan et le commentaire, n'est pas suffisant pour se faire une idée de la réalité des comptes. C'est fort possible que c'est très réducteur, hein, il n'y a aucun doute. Pour autant, le grand livre est disponible physiquement à l'Assemblée Générale. Donc si des gens veulent consulter le grand livre et vérifier que je ne raconte pas trop de bêtises, ils peuvent. Il est à disposition. On ne l'imprime pas en papier parce qu'il y a beaucoup d'écriture. Il fait 180 pages, donc on s'évite ça. Ça ne sert à rien. Mais il est tout à fait possible, voilà, de venir consulter le grand livre. Il est à disposition. Deuxièmement, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment de l'année. Je ne suis pas avare a priori de données sur le sujet. Moi, je suis pour aussi la transparence. Et troisièmement, il y a des gens qui voudraient qu'on mette en ligne le grand livre ou une version anonymisée du grand livre. Le problème, moi, que je soulève, j'avais mis ça dans une partie fac, c'est qu'il y a énormément de données personnelles dans les opérations comptables, puisque on a toutes les cotisations membres, on a nos relations fournisseurs, etc. Et qu'il est hors de question que je publie ça en l'état, premièrement. Deuxièmement, en plus de l'existence des données personnelles relatives aux tiers, il y a aussi beaucoup de données personnelles relatives aux commentaires des opérations. Parce que typiquement, lorsqu'on a une opération qui est associée, par exemple, au remboursement d'un membre qui a avancé de l'argent, des choses comme ça, on le note en commentaire. Et moi, soit je supprime toutes les notes, ou soit je les laisse. Mais je ne vais pas m'amuser à les trier à la main pour faire plaisir à quelqu'un qui voudra accéder au grand livre. Donc il est disponible de toute façon comme ça. Mais on ne le mettra pas en ligne, quoi. Enfin, tant que je serai trésorier, il ne sera pas en ligne, a priori. Le problème, c'est que si jamais je supprime et les notes et les tiers, il reste quoi dans les comptes ? Il reste les catégories. Et les catégories, c'est ce qui vous est présenté de façon agrégée en compte de résultat. Donc ça revient à peu près à ce qu'on fait actuellement. Moi, c'est mon point de vue. Maintenant, je suis pas contre ouvrir sur le sujet, hein, faut voir. Il y a eu quelques questions diverses que je vais pas détailler. Elles seront compte rendues. Et je remercie aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu le courage de lire le commentaire et de faire aussi quelques éloges sur le travail accompli, donc je les remercie aussi.
Alors peut-être que vous avez, vous, des questions sur le bilan financier. Est-ce que quelque chose, vous aimeriez un point de détail sur un point particulier de nos finances ? C'est le moment de les poser.
Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Soyez pas timide.
Je crois que j'ai endormi tout le monde, en fait.
Je sais, les chiffres, c'est chiant.
Non, mais je pense que j'étais assez succinct. Vous trouverez plus de détails dans le commentaire, très sincèrement.
Je suis un peu blonde. Je veux savoir pourquoi il y a une ligne 87 et 80, 87 et 86 qui sont là. C'est les heures, les.
Ah,
c'est une estimation.
J'ai complètement oublié d'en parler. C'est une très bonne question. Donc, ça montre qu'il y en a qui suivent mieux que moi. Alors, on a, On a une technique donc de valorisation de l'activité des membres qui s'appelle le bénévolat valorisé. Et donc, on demande aux gens qui font des actions pour l'April de bien vouloir, enfin s'ils le veulent, enregistrer leurs actions, de sorte que on fait rentrer du bénévolat valorisé en termes de produits. Donc c'est comme si c'est les gens qui nous font cadeau de leur force de travail, et on fait rentrer exactement la même force de travail dans les charges. Donc ça permet d'intégrer, en fait, de faire apparaître dans les comptes le fait qu'il y ait à peu près 3 ou 4 équivalents temps plein de bénévolat au sein de l'April. Oui, bah ça, enfin, ça, c'est presque des équivalents temps plein, mais en bénévolat, quoi.
C'est voilà. Déclaré, c'est-à-dire qu'il y en a sans doute plus.
Ah oui, ça c'est la partie déclarée. Et en fait, la plupart des gens, soit ils ne déclarent pas, parce que c'est chiant, ou ils ne savent pas comment faire, ou ils n'ont pas le temps, ou ils oublient, ou etc. Ou alors, soit, moi je m'aperçois, parce que j'essaye de le faire assidûment, généralement c'est très très sous-estimé, parce que on déclare spontanément le temps qu'on a passé sur un projet, mais le temps qu'on aura jugé utile. Or, il y a plein de temps qu'on juge pas forcément utile, qu'on ne va pas déclarer, qu'on devrait. Donc typiquement, moi, je suis administrateur, je passe beaucoup de temps à faire de la petite gestion, à lire des listes de diffusion, des choses comme ça. Jamais je déclare ça en bénévolat valorisé. Pourtant, je pourrais déclarer 10 heures par semaine sans problème, quoi, parce que ça prend beaucoup d'énergie, tout ça. Mais je déclare uniquement sur des projets identifiés. D'ailleurs, normalement, le bénévolat valorisé, il est intégré dans les comptes et il fait partie d'une annexe. Donc, moi, je n'ai pas imprimé l'annexe, encore une fois, parce que c'est lourd, etc. Mais on a dans notre système de gestion, en fait, le détail des opérations. Donc, on peut voir, par exemple, qu'il y a tant de lignes sur tel projet, des choses comme ça. Ça nous permet aussi d'évaluer le coût d'un projet bénévole. Donc, ça a un intérêt double. Un petit peu à la fois pour nous, en termes de, je dirais, contrôle de gestion, et à la fois pour refléter dans le bilan l'investissement de nos bénévoles. Donc là, par exemple, moi, je sais qu'à l'April, on a à peu près 200 000 euros de budget. Et en réalité, là, on gonfle les chiffres de 300 000 euros. C'est tout à fait légal. C'est même encouragé par les pratiques. C'est un mode de valorisation du bénévolat. Et donc, j'ai parlé de force de travail, mais les dons fonctionnent ainsi. Hein, si vous faites don réel, si vous faites un transport et que vous ne faites pas rembourser le transport ou des choses comme ça, vous pouvez le valoriser sous forme de bénévolat. C'est pour ça qu'il y a deux lignes. Il y a le don en nature, donc qui va être ce que je viens de dire, où vous avez le bénévolat, qui est en réalité le temps passé multiplié par un coefficient multiplicateur multiplié par un SMIC. Donc à l'April, nous, notre pratique, c'est on a 1, 2, 3 SMIC. Si c'est un travail d'expert, on va mettre plutôt 3 SMIC en temps horaire. Et si c'est un travail, on va dire, plutôt de besogne sans grosse valeur ajoutée, sans valeur ajoutée, je dirais, sur un marché du travail, parce que c'est souvent très riche. Voilà, sans compétences particulières, on va plutôt le valoriser, un SMIC. Alors ça, nous, on ne surveille pas. Moi, personnellement, je m'en fiche. À titre personnel, je valorise tout à 2. Voilà, je fais même pas le tri. Donc, voilà. Après, chacun ses pratiques. Nous, on regarde si les chiffres sont pas aberrants, et puis ça suffit. Voilà. S'il y a d'autres questions...
C'est une question technique. Le logiciel de compta qui est utilisé, c'est quoi? Et ça va être migré sur quel autre? Ben, ça m'intéresserait d'avoir les noms pour oui. Personnellement.
Voilà, des informations, quoi.
Non, alors, c'est juste pour pouvoir utiliser des logiciels ouais. Qui sont...
Alors nous utilisons Grisby, qui est un logiciel de compta de caisse, qui est pas mal. Par contre, on utilise une version qui est plus maintenue, pour la raison qui est que la nouvelle version maintenue n'est pas capable de tenir la charge, la quantité d'informations comptables qu'on a. Donc nous, à l'April, c'est à peu près 6 000 écritures comptables par an, et on a un historique qui remonte à, je sais pas, 96 peut-être. Non, je crois pas, je crois
2005,
qu'on avait passé... 2005 ? Je croyais que c'était plus. Bon, peu importe. Mais ça commence à faire beaucoup d'écritures, tout ça, et Grisby, la version qu'on a est limite, mais est utilisable. Elle a quelques petits bugs. Et la version nouvelle ne tient pas la charge, parce qu'il y a eu des petites erreurs de conception dans le logiciel. Par contre, moi, j'ai testé la version en cours de développement. C'est une petite merveille. Je remercie les développeurs. Ils ont fait un bon travail. La version en cours de développement dans le dépôt SVN est vraiment fonctionnelle. Par contre, nous, on a envie de... Donc, Grisby est un logiciel de compta de caisse. Et on se dit, quitte à changer, on a envie de passer sur un logiciel un peu plus sérieux, de compta à partie double. Et le choix du logiciel, il n'est pas entériné aujourd'hui, quoi. Par contre, moi j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passe. J'avoue que le point bloquant pour m'aider à décider aujourd'hui, c'est ma compétence en matière de comptabilité. Donc il faut d'abord que je me forme en comptabilité, ensuite je vais pouvoir tester efficacement les logiciels. Donc j'ai plusieurs noms, hein. J'ai OpenSI qui est je crois plus libre mais qui fait quand même qui a au moins des versions libres distribuées. J'ai en tête TinyERP ou OpenERP, je sais pas. J'ai en tête GnuCash. Dolibar, je connais pas, mais il faudra que je teste, etc. Quoi.
Moi, ce qui m'intéressait.
Enfin, je l'ai pas testé, mais je connais très bien de noms en fait, pour en faire souvent la promotion. Je l'ai jamais testé.
Ce qui m'intéressait, c'était au niveau analytique en fait. Voilà, juste pour avoir les comptes analytiques, savoir où rentre l'argent, où ressort l'argent.
Ah non, nous on fait pas de compte analytique en fait.
Pas la... okay.
Non, alors en fait, Grisby il offre une fonctionnalité d'imputation budgétaire. Qui nous permet par exemple de faire du contrôle de gestion mais vraiment bas de gamme, c'est-à-dire typiquement c'est facile à faire sur un événement comme l'AG, on peut facilement étiqueter et dire toutes les dépenses sont relatives à l'AG et on sait combien nous coûte l'AG. Par contre on peut pas le faire au quotidien pour toutes les opérations, c'est généralement pas possible. Et par exemple ventiler l'activité des parce que en gros nous à l'April l'essentiel de nos dépenses c'est les permanents, et ventiler l'activité des permanents sur des projets, on n'a absolument aucun outil pour faire ça aujourd'hui. Alors on n'a pas d'outils, disons que c'est pas mis en place, parce qu'avec des outils comme OrgMod on pourrait, je veux dire Fred le fait extrêmement précisément, maintenant on pourrait tout à fait utiliser des outils comme il y a un time tracker pour Gnome Hamster, voilà, qui est pas mal et qui pourrait nous permettre de faire du contrôle de gestion concernant les activités d'Eva, d'Aurélia ou de Jeanne, mais c'est pas actuellement une pratique qu'on a. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'on n'a pas encore décidé de faire ça. Ah donc, il nous dit qu'il utilise Hamster et GTD en parallèle. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée.
Je suis obligé de vous couper un peu parce que le temps presse et on ne va pas avoir le temps de discuter de tous les détails des logiciels de compta là, ce soir.
Oui.
Parce que l'heure tourne, hein, il est 5 heures.
Je vais faire un dernier commentaire. Ouais, comme si on a beaucoup été interpellé, moi j'ai vu dans les commentaires, j'ai beaucoup été interpellé sur le compte réception qui, paraît-il, est démentiel. Pourtant, il est relativement stable hein, par rapport à l'activité de l'April. Donc le compte réception, ça ne veut pas dire qu'on va au restaurant avec les sous des membres.
Bah
ça
si, veut... ah non, ah, zut. Merde, il fallait pas le dire.
Voilà. Non, il y a en réalité à chaque fois qu'on fait une dépense sur un événement, bah ça part en budget réception. Typiquement, le repas de l'AG, c'est 2000 euros de dépenses. Donc on a un compte réception à 5000 euros, en gros 2000 euros de dépenses du repas de l'AG. Ça veut pas dire que l'April a décaissé 2000 euros d'argent pour payer la bouffe, parce que de toute façon on prend une participation aux frais. Mais ça apparaît pas dans le budget réception, ça apparaît dans un autre compte. Donc il y a ça. Il y a typiquement les réunions CA. Donc on fait deux réunions CA par an qui nous coûtent à peu près essentiellement en repas 500 euros chaque. Donc comme on fait venir beaucoup de monde et qu'on invite des gens à travailler, faut compter les 500 euros servent à financer à peu près 40 repas plus des apéros parce qu'on fait on invite les gens, les membres actifs locaux, etc. Donc c'est pas démentiel en termes de budget. On a le très fameux et très demandé From and Peace du SGL qui nous coûte 500 euros. Et on a à peu près 600 euros liés à l'activité diverse de l'association, diverses réunions, apéros de travail, etc. qu'on peut faire avec différentes personnes. Donc 600 euros sur l'année, ça va quoi. Et on a aussi réalisé exceptionnellement deux pots dans l'année. Donc le départ d'Alix Cazenave a été fêté en présence de la communauté aprilienne de Paris. A coûté un petit peu d'argent, et on a fait un deuxième pot qui était Infoclip. On a une entreprise donc qui nous a hébergé gracieusement pendant 3 mois en 2010, et qui nous a évité de payer 2000 euros de loyer. C'est quand même assez sympa. On a offert un pot à tout le personnel pour la peine, qui nous a coûté 400 euros. Donc voilà pour le détail du compte réception. J'espère que ça répond aux interrogations levées. Voilà.
On va passer au vote de ce bilan financier, s'il vous plaît. Alors, vous connaissez l'histoire des petits cartons. Alors, je recommence avec mes petits cartons. Donc, le rose, c'est ceux qui sont contre. Le bleu, c'est ceux qui s'abstiennent. Et le vert, c'est ceux qui sont pour. Alors, Tanguy, c'est bon pour toi ?
Ouais, c'est bon.
Alors on y va. Donc, qui est contre le bilan financier ? Alors, personne lève de petit papier rose. Bon, tant pis. Alors, qui s'abstient ? Il y a une abstention là, deux là-bas, trois. Est-ce que j'en ai d'autres ? Qui dit mieux ? Merci. Il y en a qui suivent. Donc, j'ai trois abstentions. Et maintenant, qui est pour ? Donc, tout le reste. Merci.
On a du vote électronique.
En direct ?
En direct.
Cool. C'est cool. Alors, si tu veux bien nous faire le décompte.
Nous allons dépouiller les votes.
Vous pouvez baisser les mains, merci. Je te vois. Ah, vous voulez faire refaire une photo ? Non ? Si, bon, allez, photo. C'est bien parce que vous êtes là. Hein. Allez. Donc, si vous voulez bien...
Oui.
On en profite, vous n'êtes pas là souvent.
Hop là. Merci bien.
Bon, rassurez-vous, ces photos ne sortiront pas d'Internet, hein, donc pas de problème de confidentialité.
Alors, on a, je vous rappelle, 1257 votants en ligne, 108 votants physiques ou représentés aujourd'hui à l'EFRAY. Ça fait un total de 1365 votants. Sur le bilan financier, 4 personnes se sont exprimées contre le bilan, 113 personnes se sont abstenues et 1258 personnes se sont exprimées pour le bilan financier. Le bilan financier 2010 est adopté.
Merci à tous.
Un commentaire là-dessus. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont abstenus en raison de l'exercice fortement déficitaire. Hein. Ils se sont demandé si on allait reproduire ça chaque année ou pas. Ouais. Et ils se sont demandé si on allait reproduire ça chaque année ou pas. Je ne sais pas si on va reproduire, mais je voulais, enfin, j'espère rassurer sur le fait que ça n'a pas d'incidence en termes de trésorerie notable. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié.
Trop tard.
Ouais.
Il y a une question là-bas. Attends, j'arrive.
Oui, juste pour dire que ce qui me concerne, je m'abstiens parce que je suis trop nouvelle. Voilà.
Alors, non seulement c'est une très bonne raison, mais tu n'as pas justifié de ton vote, hein, de toute façon. Alors...
Voilà, t'as retrouvé.
Ouais, juste l'autre chose que j'avais à dire, c'était parce qu'il y a des gens qui ont dit ouais, on sait pas et tout. Enfin, il y a des commentaires qui étaient hésitants quand même, donc sur cet aspect de l'exercice. Et il y a aussi des gens qui se sont posés la question est-ce que c'est normal ? Est-ce que on triche pas, machin ? Je voulais juste préciser que pour ce que je connais, en matière de triche, c'est souvent du côté des exercices fortement positifs qu'il faut les chercher. C'était juste un commentaire.
Merci de cette brillante analyse.
Tu veux qu'on remette au vote le bilan ?
On va passer à la suite. Encore une fois, on est toujours un planning un peu serré parce qu'on est censé finir vers 18h officiellement. Et après, il y a quand même la soirée qui nous attend. Hein. Donc, alors, Tanguy, est-ce qu'on passe à la suite ?
Ouais. Alors, on va passer au dernier vote. Qui est l'élection du CA avant de présenter les activités financières ou morales qu'on prévoit pour 2011. Alors, je vais vous présenter les candidats qui font partie du conseil d'administration et qui restent
enfin, qui souhaitent rester sur la liste qui se présente. Donc, Jean-Christophe Becquet qui s'est présenté tout à l'heure, Lionel Allorge qui est à côté de moi, Rémi Boulle que vous avez vu tout à l'heure aussi, Anaïck Denis qui est là-bas, Sébastien Dino qui est ici, Benjamin Drieux qui est là-bas,
là-haut.
Luc Fievet qui est ici, Olivier Fraisse.
Enfin, le
qui est toujours ventriloque.
Le représentant d'Olivier Fraisse, parce que.
Tanguy Morlier, votre serviteur. Philippe Paris, qui est là. François Poulain, qui est ici. Jérémy Zimmermann, qui est ici. Il y a 5 membres qui ont décidé de ne pas renouveler leurs actions au sein du conseil d'administration. Donc il y a Alexis Monville qui est ici, Benoît Cibot qui est là-bas, Nicolas Petiot qui n'est pas présent, qui est à Bruxelles. J'ai pas fait ça dans l'ordre alphabétique, je suis désolé. Réna et Thomas qui sont également pas présents à l'AG aujourd'hui. Et on a 3 nouvelles personnes, donc David Chemouille qui est ici. Peut-être que les gens connaissent moins les personnes qui vont entrer au conseil d'administration, comme ils n'ont pas eu l'occasion de se présenter tout à l'heure dans le bilan moral 2010. Je leur laisse la parole pour... Ben voilà, David, qui es-tu, d'où viens-tu?
Ok, donc David Chemouille, je suis chercheur en informatique un peu théorique, on va dire, à Toulouse. Eh oui, voilà. Il y a un Toulousain qui s'en va, il y en a un qui remplace, c'est normal. Voilà, donc les sujets qui m'intéressent en particulier, hormis les sujets usuels de l'April, ça va être des questions sur les différentes variations sur ce que peuvent être des œuvres libres et pas uniquement du logiciel libre, des questions de, comme j'en ai parlé ce matin, du R de April qui voulait dire recherche et qui moi m'intéresse sur donc en particulier la question serait de comment promouvoir auprès des communautés de développeurs la prise en compte de problèmes qui pour l'instant sont pas encore très bien traités à mon avis. Je pense en particulier à tout ce qui est progiciel, logiciel métier, etc. Dans plein de secteurs où nos concitoyens n'ont pas d'autre choix que d'utiliser des logiciels propriétaires s'ils veulent pouvoir gagner leur vie. Donc ça peut être, comme j'en parlais ce matin, l'industrie lourde, l'architecture, la mécanique, plein de choses comme ça sur lesquelles factuellement il n'y a pas d'alternative au logiciel propriétaire. Et le dernier point qui m'intéresse, c'est le caractère innovant du logiciel libre. Je ne parle pas sur le plan économique spécifiquement, mais globalement sur le plan social. Je pense que c'est quelque chose qui nous a été enseigné par un certain nombre de personnes dans la communauté. Il y a eu beaucoup de logiciels qui ne sont pas des simples et pas le recopie ou clone de logiciels propriétaires, mais des choses qui vraiment font qu'il y a plein de bonnes raisons d'utiliser des logiciels libres. Et je pense que c'est important d'arriver à les développer encore plus. On a la possibilité de faire quelque chose de radicalement nouveau et pas uniquement de copier l'industrie. Voilà.
Merci David. Un nouveau au sein du CA, Pierre Cross.
Alors, moi, je suis venu surtout pour jouer de la guitare avec Jérémy. Sinon, j'habite à Bruxelles, ce qui n'est pas inintéressant quand il s'agit d'aller scoltiner le Parlement ou la Commission. Et puis je travaille dans une SCOP qui fait du libre, donc je vais m'intéresser aux aspects économie et entreprise. Voilà.
Et enfin, par ordre alphabétique des prénoms, alors qu'en théorie il aurait dû être le premier à se présenter si c'était au niveau des noms, Xavier Antoviak qui est devant à ta gauche.
Donc Xavier Antoviak, je suis à l'April depuis quelques années, quand même un peu plus de 4 ans je crois, Donc, j'ai notamment participé à la création du groupe animation, pas mal réfléchi sur les problématiques de structuration de l'April avec la montée en charge, le fait qu'on est passé à 5000 adhérents, etc. Donc ça, c'est un projet sur lequel je vais continuer de m'intéresser. En dehors de ça, au niveau affinité, tout ce qui a trait au fundraising et tout ce qui est lié au modèle économique du livre, toute la partie services en ligne, SAS, cloud, etc. C'est des choses aussi qui m'intéressent. Donc voilà.
Merci. Alors avant de passer au vote, comme il y a 5 personnes qui vont quitter l'activité du conseil d'administration, si vous acceptez que notre liste soit reconduite pour un an, j'aimerais les remercier beaucoup pour le travail qu'ils ont accompli cette année et les années d'avant. Vraiment, merci à tous les 5 et particulièrement à Benoît et Alexis qui sont là aujourd'hui. Les autres ne peuvent pas être présents aujourd'hui, mais ils en sont également remerciés. Donc je tiens à ce qu'on les applaudisse chaleureusement pour leur application. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la nouvelle liste, sur le CA en général?
Soyez pas timide. Il y a forcément des choses que vous voulez savoir, des questions que vous n'osez pas poser. Kouesh, c'est toujours toi qui prends la parole, hein, donc... Ah bah voilà, alors on va commencer par madame. Mais madame a déjà eu la parole, hein, mais bon.
Juste pour intervenir sur mes affinités personnelles et la raison qui m'emmène vraiment dans le milieu des logiciels libres chez vous et avec beaucoup de plaisir, c'est pour faire écho encore à monsieur qui entre au CA. Est-ce qu'il y aura un travail particulier sur la recherche en histoire et les outils informatiques qui peuvent être utilisées également par les chercheurs en histoire, en dehors des traitements de texte et des bases de données bibliographiques.
Alors, on quitte un petit peu le thème de l'élection du conseil d'administration. On note, rapidement, a priori, on n'a pas forcément projeté l'année prochaine de travailler sur le sujet de la recherche en histoire, mais si vous êtes motivé, il n'y a pas de problème pour faire ce travail au sein de l'April ou en partenariat avec d'autres associations. Je pense que sur le travail que fait Framasoft sur les annuaires de logiciels, si c'est un besoin purement de recensement de logiciels, on pourrait imaginer un partenariat avec Framasoft par exemple. Alors, est-ce que c'est Olive ou c'est Kouesh qui parle?
Non, moi, c'est Olive, c'est Kouesh. Non, lui, c'est lui, Olive. Simple calcul, il y a plus de personnes qui partent que de personnes qui rentrent. Comment va se répartir le travail? Et est-ce qu'il y a un minimum de membres du CA? Est-ce que, au niveau des quantités, j'ai pas lu de documentation là-dessus?
Alors, il y a un nombre maximum de membres du CA qui est à 18 et qu'on avait atteint l'année dernière. Maintenant, on s'est aperçu aussi qu'avoir un CA important, ça a quelques désavantages. Sur des dossiers qui sont moins prioritaires, on est assez lent à prendre des décisions. Et le suivi des dossiers, il y a cette théorie de la psychologie sociale qui parle de dissolution de la responsabilité. Et donc avoir un CA important, c'est vrai que c'est un des désavantages. Donc cette année, effectivement, on n'est pas à la limite haute du nombre de membres du CA. Et on n'a pas eu non plus des candidats qui nous semblaient remplir une fonction qui nous semblait intéressante à développer au sein du CA, ou une expertise particulière, précisément.
Ça, c'est un point qu'on peut quand même préciser, c'est que au CA, on ne cherche pas forcément à faire entrer les gens qui sont les plus actifs, parce que on cherche aussi des gens qui peuvent nous apporter une vision un petit peu différente de ce que l'on a l'habitude de faire. Et donc, on essaye de trouver des profils, entre guillemets, de gens voilà, qui ont une expérience différente et qui peuvent nous apporter une réflexion différente que simplement des gens qui sont déjà, je dirais, très actifs sur un point particulier. Donc, on essaye d'avoir un panel de gens qui ont des compétences assez variées, de manière à ce qu'on puisse, comme ça, s'engueuler longuement sur de nombreux sujets. Voilà, hein, mais c'est un peu l'idée.
S'engueuler longuement
Oui, non, mais gentiment.
C'est, d'avoir des discussions qui nous permettent de...
Voilà, mais des discussions riches et qui font que, des fois, bah, on met du temps à se décider sur certains sujets.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
Comme on est toujours... je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose qu'on passe au vote, toujours parce qu'on est tenu par des problèmes de délai. Alors, je recommence avec mes petits cartons. Donc, le rose, si vous êtes contre la liste qui se propose au CA. Bleu pour l'abstention. Et vert, si vous êtes pour. Alors, on commence par ceux qui sont contre. Qui vote contre la liste actuelle qui se propose devant vous? Je ne vois pas de vote contre. Fais gaffe parce qu'ils vont être comptés. Hein, donc, moi, si tu les lèves, ils sont comptés. Hein. Alors, qui s'abstient?
Alors, il n'y avait aucune liste. Donc, hein. Le contre, c'était aucune liste.
Voilà. Alors, qui s'abstient? Donc, j'ai déjà vu une abstention, deux abstentions, c'est tout. Donc, j'ai compté deux abstentions. Qui est pour? Donc, a priori, tous les autres. À chaque fois, il faut que je prenne. Oui, en fait, moi, je vote pour deux procurations qui m'ont été confiées, mais moi, j'ai voté en ligne déjà. Voilà. Alors, merci à tous.
Eh ben, les résultats...
Alors, donc, les résultats.
Aucune liste, 7... Alors, je rappelle juste, 1365 votants. Aucune liste, 7 personnes. Abstention, 59. Pour la liste présentée, 1309 voix. La liste qui vous est proposée est élue.
Merci à tous. Alors, merci de votre soutien. Encore une fois, on est toujours un petit peu... dans le cadre de tout ce qu'on veut vous présenter. Donc, on va continuer à aller relativement vite. Et de toute façon, on est à votre disposition après, et évidemment, pour des questions que vous voudriez nous poser, pour détailler des points. Et tous ceux qui peuvent venir demain, je rappelle qu'on va être toute la journée à la Fondation pour le Progrès de l'Homme du côté de Bastille. Donc vous avez ça sur les fiches qui vous ont été distribuées, vous êtes les bienvenus, et c'est un cadre moins formel que l'Assemblée Générale, donc c'est un cadre où on peut prendre plus de temps pour parler, répondre à des questions, envisager des projets. Alors, on va passer aux perspectives.
Aux perspectives de l'année à venir. Alors, il se trouve que les perspectives ont légèrement été modifiées ces dernières heures. J'ai fait un petit peu de teasing tout à l'heure et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Je vous ai dit que on a communiqué autour des marchés publics et des problèmes, les soupçons d'illégalité de marchés publics sur la ville de Marseille. Et il se trouve que on a, même si on n'a pas reçu le document officiel, on a de forts soupçons que le directeur informatique de la ville de Marseille veuille nous assigner en justice pour diffamation suite au communiqué qui nous a été envoyé, enfin qu'on a publié en octobre, en début octobre 2009. Donc, 2010, pardon. Donc, on n'a pas encore l'assignation, on n'est pas encore assigné de manière formelle. On a eu des échos informels pour l'instant. Donc, ça veut dire que ça, en termes notamment de conséquences financières, ça peut avoir certaines incidences, puisque il serait demandé par le plaignant des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts pour préjudice moral pour cette diffamation. Alors, supposée diffamation. Il se trouve que, d'après la première analyse, les bases juridiques sont extrêmement faibles. C'est-à-dire que, et, du coup, les risques financiers de se faire condamner sont relativement faibles. Par contre, il y a clairement un risque qui doit être présent dans le bilan financier. C'est pour ça qu'on a un petit peu décalé la présentation du bilan financier, parce qu'il nous semblait important que d'abord vous ayez tous les éléments pour le comprendre. Et ça veut dire aussi qu'on aura certainement, et on a à prévisionner, des frais de justice et des frais d'avocat pour qu'on puisse se défendre sur cette assignation qui, à nos yeux, n'a aucun fondement juridique et donc pose aussi un vrai problème. Et on se pose des questions également de donner des suites nous-mêmes judiciaires à cette assignation. Donc on est en train d'étudier le dossier. On le sait que depuis quelques heures. Donc on va évidemment vous informer dès qu'on est... dès qu'on reçoit l'assignation de manière formelle, dès qu'on a une analyse juridique un peu plus pointue, on a déjà sollicité plusieurs conseils juridiques et l'information va bientôt être éclairée. Donc voilà, ça fait assez bizarre quand on est président d'une association, parce que c'est soi qui va
au casse-pipe
devant les tribunaux. Ça a fait bizarre à pas mal de membres du CA et à l'équipe de permanents. Il nous semble qu'on est dans notre bon droit, que les marchés publics doivent être rédigés de manière légale, et c'est aussi de notre devoir, en tant qu'association de promotion et de défense du logiciel libre, de faire que les marchés publics, le soit français, soit le plus légaux possible. Donc on va évidemment se défendre contre cette attaque juridique. Voilà un petit peu pour ce point-là. Alors, il y a également d'autres perspectives.
Il y a des questions. Est-ce que tu...
D'accord. Alors, on passe aux questions, parce que là, on est un peu moins dans le côté formel des rapports moraux ou financiers. Donc, on va répondre tout de suite aux questions.
Oui, c'est juste une remarque, en fait. Si c'est juste par rapport à la publication d'un article en ligne, si c'est bien passé en octobre, il y a déjà la prescription qui est passée de 3 mois.
C'est effectivement, c'est pour ça qu'on pense que les bases juridiques de l'assignation ne sont pas bonnes. C'est qu'effectivement, il y a un délai de prescription de 3 mois pour porter plainte contre diffamation, que ce délai de prescription est largement dépassé. Et que notre sentiment, c'est qu'on est victime d'intimidation judiciaire bien plus que d'une réalité juridique établie. Ce qui pose le problème, un problème moral vis-à-vis du plaignant et également professionnel sans doute vis-à-vis de son conseil juridique.
Ouais, je voulais juste savoir s'il y avait des propos diffamatoires qui seraient précisément reprochés à l'April, ou si c'est juste ce papier qui poserait problème.
Sur le fond comme sur la forme, on rejette les arguments du plaignant. De ce qu'on a vu de l'assignation, vu qu'on l'a pas reçu, c'est un peu difficile, mais de tout ce qu'on a publié, on voit pas ce qu'il y a de diffamant, en plus des problèmes juridiques qu'il peut avoir.
Alors, on va prendre encore une question là-dessus.
Oui, c'est pas une question, c'est juste un encouragement, parce que les avocats, et un certain nombre d'avocats qui font leur commerce, justement en faisant toutes sortes de choses, n'importe quoi, du moment que c'est désagréable pour la partie adverse, ils y vont, même si ça, s'il n'y a aucun fondement, c'est pas leur problème, le client leur dit de faire quelque chose et, leur, et les paye, donc ils font quelque chose et il ne faut pas avoir peur, quoi. Moi, ça m'est arrivé, je me suis fait attaquer sur un soi-disant contrefaçon de logo. Il n'y avait pas de fondement. Heureusement que, je me suis... Il y a des gens qui disent, Maître Eolas sur son blog, il dit, il y a tout un mode d'emploi, comment est-ce qu'on fait quand on reçoit une lettre d'avocat? Alors, comment, d'abord, on se fait du thé, on respire bien. Enfin, ça commence comme ça. Mais ensuite, il y a énormément... On se laisse... Surtout en tant que scientifique, hein, parce qu'on a l'habitude que les gens, quand on est scientifique, on a l'habitude que les gens qui vous envoient des trucs, c'est pas pour rien. Mais les avocats, c'est leur boulot de faire n'importe quoi avec rien du tout, enfin de faire des montagnes avec rien du tout. C'est vraiment leur travail, ils sont payés pour ça. Ils sont menteurs, ils sont payés pour ça. Donc, il y a des.
Je pense qu'il faut
même,
pas.
Avocats, les avocats le disent, je veux dire, c'est pas.
Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité d'un cas particulier. Merci. Donc, merci en tout cas pour le soutien. On est relativement confiant, mais il y a toujours un risque qui n'est pas forcément très agréable à prendre de prime abord. Mais on est relativement serein, effectivement. Alors, pour être sur des aspects un peu plus positifs, on va décliner nos actions autour d'un projet fédérateur cette année qui est le Libre près de chez vous. Il se trouve que c'est Jean-Christophe qui, lors d'une réunion CA il y a quelques semaines, est venu avec cette idée qui nous semblait être une bonne idée pour 2011. Donc je te laisse rapidement la parole, Jean-Christophe.
Alors ça part du concept de pollinisation. Le concept de pollinisation, c'est que quand l'abeille butine, d'une part elle fait du miel, mais d'autre part elle permet aux plantes de se reproduire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est une toute petite action, mais qui a des très grands effets. Et l'idée, c'était que dans la ruche de l'April, on est 5000. Et que si on va butiner un petit peu chacun dans notre village, autour de nous, dans les associations qui nous entourent, on pourrait peut-être avoir des effets très importants et recueillir des fruits en matière de promotion du logiciel libre. Donc l'idée, c'était d'inviter les membres de l'April tout au long de l'année à mener des actions de proximité de promotion du logiciel libre, de sensibilisation au logiciel libre. Donc ça peut être des micro-actions comme organiser une rencontre, coller la magnifique affiche d'Antoine Bardelli dans l'école de vos enfants, afficher une expo à la médiathèque. Ça peut être des actions... Plus de plus grande envergure, comme par exemple participer de manière active aux campagnes candidat.fr, envoyer des courriers de sensibilisation à ses élus. Et l'idée, ce serait que tout ça, mis bout à bout, toutes ces micro-actions locales mises bout à bout, puissent nous permettre de mieux promouvoir le logiciel libre. Donc pour l'instant, on est en train de réfléchir à comment animer ça, comment lancer la dynamique. La première action qui a été faite, c'est que j'ai publié sur le wiki de l'April une liste de micro-actions possibles. Donc que chacun peut mener, qui sont des exemples d'actions. Ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, c'est enrichir cette liste, parce qu'il y a probablement plein d'idées que je n'ai pas eues. Et puis ensuite de voir si ça motive des gens, et puis comment on pourrait du coup bien faire que le logiciel libre diffuse le plus largement possible, puisqu'on a vu que l'April est présente partout. Si chacun sur notre territoire, dans notre village, dans notre région, on mène ce type d'action, je pense qu'on peut espérer en retirer des effets assez importants en termes de meilleure connaissance et de meilleure prise en compte du logiciel libre dans toutes les sphères de la société, ce qui est l'objet social de l'April.
Effectivement, l'April est présente partout. Les cartes montrent qu'on est présent en France métropolitaine. Et c'est vrai que sur la carte, ce qui est, j'ai oublié de dire tout à l'heure, et je voulais m'excuser auprès des adhérents qui sont dans les dom-toms, ils n'apparaissent pas sur les cartes, mais ils sont aussi extrêmement nombreux. Et il y en a certains qui sont très actifs et qui font bouger des dossiers très importants, notamment informatique libre et éducation. Donc c'est une maladresse de notre part sur les cartes de réduire les adhérents de l'April français à la France métropolitaine. Je tiens à m'excuser auprès d'eux de cette maladresse, puisque c'est moi qui ai codé la carte et que je n'avais pas pris soin, comme François l'avait fait, contrairement à François qui l'avait fait sur les supports, de mentionner les dom-toms. Alors, en plus de ce projet fédérateur, qui est un projet transversal, on va en 2011 investir. Il y avait peut-être une question sur le projet fédérateur, pardon.
Non, juste faire un petit commentaire. Je veux bien aller afficher un truc, mais. Préparez, mettez en ligne et dites où c'est, parce que il y a des documents, chacun prépare dans son coin et tout, mais allez jusqu'au bout. Alors, précisez bien où c'est.
Très très longtemps, la fiche éducation a été sur la page d'accueil du site. Là, elle est sur le wiki de l'April. April. Donc Eva rappelle que pour trouver...
Je le dis dans le micro, april.org/sensibilisation, vous avez une page portail qui reprend tous les documents produits par le groupe Sensibilisation avec les liens pour aller télécharger les documents en PDF, basse résolution, haute résolution, couleur, noir et blanc, et donc pour pouvoir les réutiliser.
Et si pour un certain nombre d'affiches, on essaie de mutualiser...
On fait également des impressions mutualisées. Donc l'affiche éducation, elle peut être commandée en ligne sur la boutique de Framasoft en vente libre.org.
Pour le catalogue du libre, il y a eu des préventes et l'impression est lancée. Je crois qu'il y a... Ah d'accord, va être lancée.
Donc si jamais vous avez oublié de commander votre catalogue libre, vous pouvez encore aller voir François et lui dire...
a priori on a un peu de stock.
Juste la difficulté, c'était de réunir suffisamment d'acteurs avec des promesses d'achat pour pouvoir éditer le catalogue à faible prix, puisque c'est une impression d'un catalogue comme ça, ça a des coûts fixes très élevés. Donc si vous passez commande, vous payez 1 000 euros, peu importe que vous en fassiez un ou deux, peu importe, vous payez 1 000 euros. Et donc on a appelé beaucoup de gens à nous faire une promesse d'achat pour qu'on puisse, nous, ne pas prendre trop de risques et dire, bon, si on en fait 5 000, on est sûr qu'ils seront vendus. Et en fait, ça a assez bien marché, puisque j'ai 7 000 promesses d'achat, donc l'impression va être imminente, il faut que je trouve un peu de temps de sommeil, et puis ça va être fait. Et ensuite, ils seront disponibles d'ici mars, début mars, je pense. Comme ça, ce sera pour libre, en fait, ce sera cool. Voilà.
Alors, en plus de ce projet fédérateur un peu transversal, on va mettre de l'énergie... a priori en 2011, après l'actualité montre que des fois on doit prioriser notre activité, sur les marchés publics, vous avez dû le sentir à l'exposé du rapport moral 2010, sur les brevets logiciels, je pense que Gibus vous l'a fait bien sentir. Pardon ? Absolument, mobilisez-vous. Et effectivement, je ne parle pas d'ACTA, mais Jérémy, vous avez fait sentir qu'il y avait moyen de se mobiliser sur l'ACTA aussi en 2011. IPRED, la suite d'ACTA. L'aventier, vu que ça bouge au niveau institutionnel, on a l'impression qu'il risque d'avoir du boulot permanent, d'aller à des rendez-vous institutionnels correspondant à ce dossier-là. Format ouvert, interopérabilité, il y a une actualité européenne qui risque d'être assez importante puisqu'il y a une promesse de la commissaire d'agir sur ce dossier. La gouvernance française du numérique avec la création du CNLL, CN, Conseil National du Numérique, CNN, pardon, CNN. CNN. Donc on a déjà envoyé une proposition de contribution cette semaine et on va voir comment on peut s'inscrire là-dedans. Une opération centre de fundraising liée... Bah, cette année, on n'a pas fait de communication pour essayer un appel à adhésion. Il nous semble que si on veut... préparer un certain nombre de dossiers pour l'avenir, il va falloir passer par cette étape-là. Donc on va dédier du temps, notamment permanent, là-dessus. Une campagne accessibilité qui se prépare pour, a priori, l'été ou l'automne prochain.
Ouais, ce serait plutôt l'automne, je pense, le temps de préparer vraiment la campagne. L'idée, c'est que bon, l'accessibilité, comme beaucoup de choses en France, c'est pris en charge par, par la solidarité sociale, ce qui est une très bonne chose. Ce qui est une moins bonne chose, c'est qu'il y a des millions d'euros d'argent public qui vont directement dans la poche d'éditeurs de logiciels propriétaires, sans vraiment aucun contrôle, et enfin, tout du moins sur, sur le fait que ce soit raisonnable ou pas de payer autant, et sans, comment dire, sans forcément de très bons retours côté utilisateur, puisque on se retrouve sur des marchés un peu sponsorisés où les éditeurs imposent leur prix sans que personne n'ait vraiment droit de regard là-dessus. Donc nous, on va aller voir donc les organismes qui gèrent un peu ça, ainsi que les associations qui sont des gros prescripteurs de solutions technologiques, qu'il s'agisse de logiciels ou d'autres, et on va leur faire prendre conscience de la réalité du logiciel libre, de leur expliquer en quoi le logiciel libre c'est important pour eux, pour leurs utilisateurs, que ça permet d'améliorer la prise en charge des personnes en transférant des budgets plus, par exemple, sur de l'accompagnement, sur de la formation, la possibilité d'équiper plus de personnes avec le même budget. Et on va essayer d'aller voir et faire comprendre ça aux gens, qui, je pense, sont de très bonne foi. Le petit problème pour ça, c'est que c'est très décentralisé. Ça se joue à un niveau plutôt départemental, voire subdépartemental. Donc ça va nécessiter beaucoup de petites mains. Alors on s'est dit, au sein du groupe Accessibilité, on va essayer de reproduire un peu des choses qu'on a déjà fait à l'April et qui ont bien marché. C'est des campagnes basées sur la plateforme GPT, Grassroots Platform, qui est développée par Benji et qui permet de faire du suivi de contact décentralisé sur tout le territoire. Et on va préparer ça, préparer des documents de campagne, préparer des objectifs de campagne et inviter tout le monde à aller voir ces référents pour discuter de ces sujets-là. Voilà.
Quesh, t'as une question ? Ou tu lèves le bras juste pour...
Non, il n'a pas de question. Quesh est censuré, c'est totalement honteux.
Non.
Là, c'est Quesh qui parle ou c'est Olive qui parle ? Je comprends plus rien. Alors,
c'est très intéressant parce que donc Quesh parle pour Olive et Olive parle pour Quesh. C'est pas mal comme système. Bon, on vous répondra en privé sur ce nom.
Donc, et enfin, un thème fort dans lequel il y a, vous l'avez peut-être senti lors du rapport moral, une activité très, très forte, qui est éducation. Donc on va continuer nos efforts en 2011 sur ce dossier-là. Alors voilà un petit peu pour les perspectives. Maintenant qu'on a toutes les informations pour pouvoir envisager un budget prévisionnel, cher trésorier, je te laisse la parole.
Oui, donc...
Pardon, Eva. Oui, je vais essayer de faire ça.
Ouais.
Et il est dans l'SVN ?
Bah non, parce que j'ai plus de net, donc il n'est pas uploadé. Non, mais on va faire vite, hein, de toute façon. Parce que,
tu veux prendre le... Enfin, je sais pas.
Si vous voulez, moi je me suis cassé la tête ces derniers jours, ces dernières semaines, à travailler, donc à discuter avec le CA de ce qu'on allait faire en termes de budget prévisionnel pour l'association. Donc ça s'impose de faire des choix stratégiques, de financer des projets, etc. Et il faut faire rentrer tout ça dans les cases, c'est pas forcément simple. Et on avait une proposition plus ou moins raisonnable avec différents projets prévus. Différents projets prévus. Et vous avez compris, la nouvelle qu'on a appris ces dernières heures a tout remis en cause. Donc moi j'ai mis à jour un document de budget, mais je suis pas sûr en fait que ça a un grand intérêt que je le projette. Donc je vais le terminer, on va dire offline, faire un commentaire qui sera ajouté au compte rendu, je pense, de l'AG, ça sera pas mal. Ça permettra d'expliciter plus de choses. Mais en fait cette action juridique suppose que, étant donné qu'on a un risque, on doit provisionner l'argent du risque. Hein, on doit provisionner la charge potentielle qu'on estime à 25 ou 30 000 euros. Donc il faut préciser cette estimation. Donc ce soit un risque de condamnation, de frais de justice, de frais d'avocat, de frais de condamnation aux dépens, etc. Donc ces 30 000 euros-là, c'était à peu près la latitude qu'on avait pour faire des projets intéressants. Donc ça nous a grillé pas mal de choses et ça remet en cause, enfin ça nous serre la ceinture un petit peu sur les budgets. Pour l'aspect financement des permanents, il n'y a pas de problème a priori, puisqu'on a plus de cotisations qui rentrent que ce que nous coûtent nos frais de structure réguliers, on va dire. Donc en termes de, on a à peu près 175 000 euros minimum qui vont rentrer en cotisation, et on va avoir en gros 169 000 euros de dépenses côté permanent, local, frais habituels. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a 10 000 euros, comme vous avez vu, d'engagement auprès du crédit coopératif. Donc ça, c'est de l'argent qui va rentrer, enfin qui est déjà rentré physiquement, mais qu'on va compter au budget 2011. On va le faire rentrer dans le budget. Et on va financer, grâce à ça, une impression, une distribution d'un guide à 5 000 exemplaires auprès des associations et des réseaux associatifs, donc maisons des associations, associations, enfin regroupements d'associations, etc. Et on va aussi probablement travailler donc avec un stagiaire, a priori c'est à peu près dans les rails, sur la question du groupe Libre Association. Donc ça c'est un projet sur lequel on s'est engagé il y a longtemps, donc on l'inclut là-dedans. Il y aura quelques petits projets de financer, par exemple des affiches et tout ça, ça pose pas de problème. Par contre, on avait des questionnements, à savoir est-ce que on va prendre un stagiaire sur du conseil juridique, des choses comme ça. Bon, bah, ces questions-là sont un petit peu évacuées pour ces raisons-là. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Je vais regarder mon document, sinon j'ai oublié des choses.
Bon, non, juste avant que tu termines ça. Il faut bien dire que on va aussi essayer de lancer une campagne de, on a dit fundraising, mais je sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire fundraising, en fait, de levée de fonds, pardon. Alors vas-y.
Oui, alors je vais finir là-dessus parce que en fait j'avais dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Étant donné qu'on a 27 000 euros de capitaux propres, si on arrive à avoir, on va dire, une trésorerie équilibrée pour 2011, on prend pas de risque financier sur la pérennité de la structure. Il y a pas de problème de ce côté-là. Et de ce fait, en fait, ça nous a un petit peu remonté, on va dire, en CA hier. Et puis on s'est dit, bah, finalement, quitte à se serrer la ceinture et à se forcer de faire une petite coupe sur nos projets, on s'est dit, cet argent qui est provisionné, si jamais on gagne par le plus grand des hasards ou par un procès, on pourrait imaginer que ça fasse une belle petite cagnotte pour envisager l'embauche d'un quatrième permanent au sein de l'April pour commencer l'année 2012. Ce qui serait pas mal, parce que ça risque d'être une année chargée sur le terrain politique.
Oui, en fait... voilà, l'idée, c'est de faire une campagne d'adhésion dont on n'a pas encore déterminé vraiment la manière dont on va le faire, mais on souhaite on ne souhaite pas que l'April s'arrête à 3 permanents, en fait. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment qu'on estime qu'il y a énormément de travail à faire. On constate qu'aujourd'hui, les permanents sont full, ras la gueule, ils n'arrivent pas à traiter tous les dossiers. Comme on vous l'a dit, par exemple, on a des problèmes comme le site web, l'administration, système. Donc c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, c'est-à-dire qu'on est plein d'informaticiens et on n'arrive pas à trouver des bénévoles pour faire ces tâches-là, ce qui est normal, parce que c'est chiant. Donc en fait, il y a un moment, on va devoir payer des gens. Ouais, il paraît qu'on fait des super randonnées en banlieue, on se perd pour trouver les serveurs, je sais pas où. Mais en fait, il y a un moment où, voilà, en tant que responsable, en tant que membre du CA, on a une décision à prendre, et cette décision, on l'a déjà prise en partie l'année dernière, c'est de payer des gens pour faire ce travail-là. Parce qu'à un certain moment, on n'arrive plus à trouver de bénévoles pour le faire. Et ça se comprend. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une action active, proactive, puisque c'est le mot à la mode, pour aller chercher des sous et aller, si possible, avoir un quatrième permanent.
Non, ça me semble très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bilan prévisionnel?
Je suis désolé sur la forme, parce que du coup, en général, c'est pas forcément facile à...
Non, mais tu t'en... Oui, tu t'en sors bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'en vois une là-haut.
Oui, donc je voudrais revenir sur la question du procès potentiel qui peut avoir lieu. Donc moi j'ai bien saisi tout à l'heure, au vu des éléments, des premiers éléments, la faible probabilité finalement que l'April soit condamné. en première lecture, mais et donc je trouve pas tout à fait juste de provisionner la totalité en 2010 de ce qui pourrait potentiellement arriver sur le coin de la figure de l'April. La règle associative voudrait que finalement on affecte à l'exercice 2010 la probabilité qu'on estime d'être condamné finalement. Pardon ? 2011, pardon. Voilà. Si on estime qu'il y a 20% de chances d'être condamné, voilà, il faudrait prendre 20% des alors 30 000 euros. Puis après, évidemment, on peut se mettre une marge de sécurité, etc. Mais voilà, la règle. Enfin, moi, je trouverais qu'il serait plus judicieux de provisionner un chiffre qu'on conviendrait ensemble. Voilà, ce serait plus réaliste. Voilà.
Alors en fait, là il est évident que j'ai présenté la situation au pire cas. En fait, on ne s'est pas encore donné le temps de la réflexion, premièrement. Deuxièmement, on n'est pas encore, on n'a pas reçu l'assignation. Alors, en fait, on n'est pas les seuls à être assignés. Il y a d'autres gens qu'on. On peut le dire. Comment ? Il y a des gens qui ont dit quelque chose ? Voilà. Bon, on n'est pas les seuls à être assignés a priori. Et nous, on est juste cités dans les documents des autres comme étant co-assignés. Donc bon, on n'a pas plus pour l'instant. Et on n'est pas non plus. Je dirais, si j'étais un peu arrogant, je dirais que nous, les geeks, on aime bien le code. Donc on peut regarder un peu la crédibilité de l'assignation. Mais la réalité, c'est que dans ce genre de cas, il faut quand même, en premier lieu, discuter avec des avocats. Et on n'a pas encore fait cette démarche-là, puisqu'on n'a pas encore été assigné. C'est très, très frais. Donc il faut. Je pense qu'on va peut-être réviser des choix. Mais par exemple, en termes de risque, on va peut-être réviser des choix. Mais la première chose à faire, c'est qu'on reçoive l'assignation, qu'on aille voir nos avocats et puis qu'on prenne des décisions en vertu de ça.
Il faut quand même. Il y a une question là-bas. Ouais. Il faut juste quand même ajouter que ce que tu dis, c'est juste, mais on est aussi obligé de prendre l'éventualité la pire, enfin d'étudier l'éventualité la pire.
On n'a pas provisionné la pire des éventualités.
Oui, et encore, on n'a pas été jusqu'au bout, parce que derrière, ça a quand même un impact direct sur le budget.
Mais je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit. Hein. Le jugement, c'est soit on perd, soit on gagne. Il est assez. Enfin, tu dis, s'il y a 20% de chance qu'on perde, il faut qu'on provisionne 20% de la somme. Non, si on perd, on perd. On perd toute la somme. Donc c'est soit on provisionne, soit on ne provisionne pas.
Non, on peut aussi imaginer échelonner la dépense. Je pense que c'était plutôt ça que Laurent. On a des risques non négligeables. Effectivement que si il y a des bases juridiques fiables de la part du plaignant, le procès n'est pas lieu en 2011, mais dans d'autres années. Et donc du coup qu'on échelonne le risque dans le temps. Enfin, sauf que là, le risque est un petit peu plus fort cette année que quand on ne sait pas qu'on va se faire attaquer. Là, a priori, on est attaqué, donc on provisionne pour ce risque-là. On a essayé de le faire de la manière la plus raisonnable possible, c'est-à-dire en ne provisionnant pas la totalité, mais en provisionnant une partie, encore une fois, selon les informations qu'on a, qui ne sont pas, on n'a pas encore reçu le document officiel. Donc voilà, on en discute l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on aura évidemment des éléments beaucoup plus tangibles, puisque dans quelques jours, on devra avoir un vrai élément tangible. Donc voilà. Rendez-vous sur ce point l'année prochaine en AG. Et évidemment, on vous tient informé à tout moment, dès qu'il y a de l'actualité là-dessus. Vous comptez bien, vous imaginez bien qu'on ne va pas vous laisser orphelin sans nouvelles sur l'activité de l'April et notamment sur une activité aussi surprenante que ce type d'attaque juridique.
Bon, on va peut-être passer à la suite. Il n'y a pas d'autres. Oula,
si je me casse. Il y a des questions sur d'autres points du bilan prévisionnel.
Bon, personne ? Bon, tant pis. Vous savez pas ce que vous perdez. Alors, il est bientôt l'heure de se quitter. Ben oui, mais pas définitivement. Hein. Pour mieux se retrouver au loop.
Alors, attendez, de vous donner toutes les informations,
ça,
il y a quand même.
C'était le côté bien, c'était le côté sympa. Mais
il y a aussi des trucs qui sont vraiment cool parce qu'il y a un travail vraiment cool qui a été établi durant toute la préparation de cet AG. Une équipe technique de trois personnes, Alban Peignet.
Oui.
Non, mais quand vous faites trop de bruit, il n'entend plus rien dans son casque, en fait.
Rémi Rouard. Rouen, pardon, excuse-moi. Benjamin Sontag.
Et son assistant qui est là-bas.
Je sais pas.
Tu t'appelles comment, s'il te plaît, parce que j'ai pas retenu ton prénom. Christophe, qui a servi d'assistant caméraman.
On a longtemps voulu faire une retransmission audio et vidéo de l'AG. C'est la première fois qu'on y arrive. Alors encore merci à tous les quatre
merci
pour ce défi.
Eux.
Et merci à toutes les personnes. Merci à l'EFRAY pour nous avoir fourni la bande passante. Merci à Lionel Bernardi qui a été notre...
Contact ici,
effraie technique qui était là tout à l'heure pour résoudre nos petits problèmes de piles pour les accès. Il nous a ouvert l'accès réseau et tout ça. Donc merci beaucoup à l'EFRAY et merci particulièrement à Lionel pour tout ça. Je dois aussi remercier Vincent Calame qui est la personne à la FPH qui nous permet demain de faire une super réunion. Donc si vous avez envie de venir demain commencer les dossiers 2011 de l'April et faire des choses qui sont sympas, l'AFPH va nous permettre de le faire. Ce soir, on est accueillis par Le Loop pour la soirée aprilienne. Et à ce titre, je tiens à remercier Gizmo et Tom de ce Hackerspace qui ont tout fait pour que cette soirée ait lieu et qu'elle soit vraiment super géniale. Donc merci à eux. Merci à Denis Dordogne pour toute son aide, sa voiture, tout ce qu'il a fait pour la préparation de l'AG, à Vincent Caldenbrome aussi pour tout ça, à Guillaume Ducru pour l'accueil, les croissants, etc. À Loïc Daillot qui prépare le repas de demain, je le vois plus et il est peut-être du coup parti.
Il est parti travailler.
Travailler pour qu'on puisse manger demain. Merci beaucoup à lui. Merci à notre équipe de permanents qui s'est défoncée pour faire en sorte que cet AG ait lieu. Merci à Eva pour la préparation de cet AG et de toutes les autres qu'elle a eu à organiser dans le passé. Merci à Aurélia qui a vraiment fait beaucoup de choses. Merci beaucoup à Fred qui a été l'auteur d'une grande partie du rapport moral qui nous pousse à chaque fois pour qu'on respecte les deadlines, notamment dans les présentations orales. Merci à François et Benji pour le boulot sur la compta qui est à chaque fois hyper minutieux et hyper précieux. Merci à Lionel et à Sébastien pour le secrétariat et la gestion avec Aurélia et Eva de tous les votes, etc. Merci aux membres du CA qui ont relu, commenté en amont les différents rapports. Merci aux responsables de groupe qui ont écrit une partie des rapports moraux cette année. Merci à l'EFRAY, merci au Loop, et je vous engage, merci à tous ceux que j'ai oubliés, merci à vous d'être présents aujourd'hui, éventuellement demain et ce soir à la soirée, merci à ceux qui nous ont suivis en ligne, je vous donne rendez-vous au Loop, c'est 40 rue René Boulanger, c'est à côté de la place de la République, à Paris dans le 10e, on a... Vous avez entendu Pierre, Jérémy qui prépare des choses. Luc a organisé une grande partie de la soirée. Merci à lui là-dessus. Et merci à vous de venir participer à cette soirée qui va être mémorable. Je n'en doute pas.
Il y a un problème d'accès, je crois. Il faut préciser pour l'accès. Donc,
Alors, si vous avez des voitures, vous êtes les bienvenus parce qu'on a des choses à
transporter.
Bref. Merci beaucoup, à l'année prochaine ou à tout de suite pour commencer les actions 2011 de l'April.
Merci.